Bonjour à tous. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu, au chapitre 7. Nous continuons donc l'étude du Sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Et nous allons donc, nous avons vu la semaine dernière le verset 15 avec le frère Jean-Pierre, et cette semaine nous allons regardez les versets 16 à 20. Donc Matthieu chapitre 7. Et je vais lire les versets 13 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. » Vous qui commettez l'iniquité. Donc la section du chapitre 7, qui va des versets 13 à 28, c'est donc la conclusion du sermon sur la montagne qui a occupé les chapitres 5, 6 et 7. Le sermon sur la montagne, c'est peut-être le texte le plus connu de Jésus parmi les non-croyants. Et c'est vrai que, en effet, même étant un croyant, qui ne peut s'émerveiller devant cet enseignement si radical qui consiste à aimer ses ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent? Et quel homme, même incroyant, ne sera pas d'accord, au moins en parole, avec Jésus quand il exhorte à ne pas juger ou à faire aux autres ce que nous voudrions qu'il fasse pour nous? Mais la section qui commence au verset 13 est beaucoup moins connue, elle est plus austère. Et de ce fait, le monde ne la connaît pas. Jésus passe brutalement de la règle d'or, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, à la porte étroite. Tous ces beaux commandements de Jésus, des trois derniers chapitres, beaucoup les admirent, mais peu les pratiquent. Seuls les pratiquent ceux qui sont entrés par la porte étroite et qui suivent Jésus sur le chemin étroit, et ils sont si peu nombreux. La grande majorité des hommes est sur le chemin spacieux qui mène à la perdition. Et ce mot « perdition » qu'utilise le Seigneur ne parle de rien d'autre de ce que l'apôtre Paul appelle la ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, ce qu'on appelle l'enfer. Mais Dieu nous exhorte aujourd'hui, quand il est encore temps, à entrer par cette porte étroite et à marcher sur ce chemin étroit qui mène à la vie. Et ce n'est qu'un petit troupeau qui passe par cette porte et qui chemine sur cet étroit sentier. Et à ce petit troupeau, Jésus fait une mise en garde. Et il dit ceci, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Les brebis sont des animaux doux et fidèles, mais sans défense. Un moment de distraction, et voilà, la brebis échappe à l'attention, à la protection du troupeau et du berger. Elle est isolée, elle devient une proie facile pour le loup. Et les loups, ce sont les faux prophètes. Ils ont l'apparence du berger. En effet, l'expression « vêtements de brebis » fait sans doute référence au fait qu'ils portaient des vêtements faits en laine de brebis. Mais en fait, derrière ce déguisement, ce sont des loups qui cherchent à dévorer. Et ce sont de faux guides qui cherchent à détourner les chrétiens des trois chemins pour les amener sur le chemin spacieux qui mène à la perdition. Le danger avec ces faux prophètes, c'est qu'ils sont bien déguisés. Ils sont difficiles à discerner. C'est pourquoi le Seigneur donne un conseil sur la façon de les démasquer. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comme ça, en apparence, ils font bonne impression. Très bonne impression, peut-être sont-ils affables, chaleureux. Ils parlent bien, ils disent des belles choses. Ils font profession de nobles sentiments. Vraiment, on pourrait s'y tromper. Mais Jésus nous dit, ne vous fiez pas aux apparences. L'apôtre Paul nous a ainsi mis en garde dans 2 Corinthiens 11, verset 13, où il dit « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres se déguisent en ministres de justice. Ne croyez pas que Satan va venir vers vous avec 2 cornes et une fourche pour vous faire peur comme dans les films d'horreur. Il va venir vers vous sous la forme de la personne la plus sympathique, la plus séduisante qui soit, un ange de lumière. C'est à ça que ressembleront les faux prophètes. Mais Jésus nous dit, ne regardez pas aux apparences, regardez aux faits. Et Jésus ici énonce un principe fondamental de la vie chrétienne et qui est pourtant si simple, on y reviendra plus en détail à la fin du message. Ce principe est tiré de l'agriculture. Je ne sais pas si parmi vous, beaucoup sont capables de discerner un pommier d'un cerisier. Si vous avez été élevé dans les villes, sans doute pas, comme moi. Et surtout si on est en hiver. Mais en revanche, vous savez faire la différence entre une pomme et une cerise. Et c'est tout simplement ce que nous dit Jésus. Regardez aux fruits pour reconnaître l'arbre. Et donc, nous aimerions bien savoir quels sont ces fruits auxquels nous devons regarder pour discerner les faux prophètes. Et les fruits, c'est ce qu'une personne produit. C'est ce qu'un arbre produit et c'est ce qu'une personne produit. Et fondé sur la parole, je pense qu'on peut considérer qu'il y a au moins deux grandes catégories de fruits qui nous permettent de discerner le faux prophète. La première, c'est ce qui concerne le comportement du faux prophète, son caractère, son comportement, son mode de vie. Et puis le deuxième, c'est son enseignement, ses croyances, ce qu'il enseigne. Ainsi, une personne peut prononcer des très belles paroles et tromper les autres pendant un certain temps, mais quand on regarde sur une certaine durée, on finit par savoir à qui on a affaire. Et c'est ce que nous dit Paul en 1 Timothée 5, 24, où il dit ceci, « Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez les autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne sont pas ne peuvent rester cachées. Elles ne peuvent pas rester cachées. Donc finalement, le comportement du faux prophète finira par se manifester. En ce qui concerne l'enseignement, il suffit simplement de comparer l'enseignement du faux prophète avec la parole de Dieu. Et ça permettra toujours de déterminer si cet enseignement est faux ou vrai. C'est un principe simple et fondamental que nous devrions toujours pratiquer, et c'est ce que pratiquaient les chrétiens de Bérée, ces fameux chrétiens qui reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si seulement tous les chrétiens faisaient cela. On va d'abord regarder donc le caractère, le comportement moral du faux prophète. Et dans le deuxième chapitre de 2 Pierre, ce deuxième chapitre est dédié presque exclusivement, c'est un long chapitre, à une mise en garde contre les faux prophètes. Mais j'ai fait quelques extraits de traits de caractère que Pierre dénonce chez ces faux prophètes. Il dénonce leur désir d'impureté, leur mépris de l'autorité, leur abandon à des penchants naturels. Ils parlent de manière injurieuse. Ils ont les yeux pleins d'adultère, ils sont insatiables de péché, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Donc rébellion, immoralité et cupidité sont trois signes qui devraient nous alerter sur la présence d'un faux prophète. Et aussi, il semble que les faux prophètes dont parle notre Seigneur, même s'il y a des faux prophètes dans le monde et ils sont en abondance, en particulier sur le petit écran et sur Internet, mais il semble qu'ici, il parle particulièrement des faux prophètes qui font profession d'être chrétiens, puisque les deux versets suivants que nous avons lus, 21 et 22, dans ces versets sont manifestement à la continuité du passage que nous étudions en ce moment, et on voit que ces hommes appellent Jésus Seigneur, Seigneur, Et ils parlent des choses qu'ils ont faites en son nom. Donc ils se voient eux-mêmes comme des chrétiens, même si, en fait, ils sont des faux prophètes. Et si donc nous devons nous méfier des faux prophètes, des prophètes du monde dont les mauvais fruits sont évidents, c'est surtout contre les faux prophètes qui sont dans l'Église que le Seigneur nous met en garde, dans nos églises, dans l'Église universelle. Et regardons tout d'abord certains de ces fruits, en particulier le fruit de l'immoralité. L'Église a compté dans son sein des leaders aux mœurs les plus dépravées, qu'on oserait à peine en parler dans une prédication. Peut-être le nom de famille Borgia vous est-il connu? Il est associé à l'immoralité la plus extrême. Et un des membres de cette famille, Alexandre VI, fut pape à la fin du XVe siècle. Et cet homme profondément débauché n'eut pas moins de 6 enfants reconnus avec 3 maîtresses différentes. Et un de ses serviteurs a tenu un journal précis de ses faits et gestes. Et ainsi, on sait que cet homme, ce pape et son entourage étaient livrés à l'immoralité l'immoralité sexuelle la plus sordide. Son pontificat a cessé en 1503, moins de 15 ans avant que Luther ne publie ses 95 thèses. Et en effet, la dégradation morale dans laquelle l'Église avait sombré était aussi accompagnée d'une perversion sur le plan de la doctrine et de l'enseignement, et si bien qu'une réforme non seulement morale mais aussi doctrinale était devenue indispensable, et c'est ce qui se passa il y a 500 ans. Mais ces fruits évidents d'un faux prophète sur le plan du mode de vie, merci frère. Ces fruits évidents d'un faux prophète sur le plan du mode de vie ne se limitent pas à l'Église catholique ni à l'époque de la Renaissance. Et également, ils ne se limitent pas seulement à l'immoralité, mais ils portent aussi sur la cupidité. Et dans nos églises, dans l'Église évangélique, je dirais au sens large, moderne, dans laquelle nous vivons, notre Église est gravement touchée par des, entre guillemets, évangélistes qui ont un goût prononcé pour l'argent, et surtout votre argent, et qui s'accompagnent d'un enseignement totalement erroné sur le plan doctrinal. Cet enseignement tourne souvent autour de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Et vu que leur enseignement, c'est que Dieu veut notre richesse matérielle ici-bas et que cette richesse est une preuve de la bénédiction de Dieu sur nous, eh bien ces personnes n'ont pas honte de mener un grand train de vie. C'est simple. Dieu veut que vous soyez riche. C'est une preuve que vous êtes bénis. Donc si eux sont riches, c'est une preuve qu'ils sont bénis. Justement, le frère Jean-Pierre, la semaine dernière, a parlé de Joyce Meyer. Cette femme apparaît-il un jet privé d'une valeur de 10 millions de dollars? Comment l'a-t-elle payé? Et à ceux qui la critiquent sur son train de vie, elle répond qu'elle n'a pas à s'excuser d'être bénie. Le frère nous a également parlé d'un homme qui s'appelle Benny Hinn, qui enseigne l'évangile de la prospérité. Sa fortune serait estimée à 42 millions de dollars. Et dans tous ces gens-là, le plus riche serait un télévangéliste issu du pentecôtisme, du nom de Kenneth Copeland, dont la fortune s'élèverait à 760 millions de dollars, obtenus par des dons de braves gens, souvent pauvres et crédules. Son mouvement est appelé Word of Faith, c'est-à-dire parole de foi. Et cet enseignement n'est pas seulement déviant, mais c'est complètement farfelu et complètement hérétique. En revanche, c'est très efficace pour s'enrichir. Évidemment, les excès de ces personnes sont énormes et sont visibles, tellement visibles qu'il est facile de s'en écarter, mais pourtant, vous devez être très vigilant. Parce que ces personnes ne sévissent pas seulement de l'autre côté de l'Atlantique, mais également, il y a des gens comme eux de notre côté. Et ils s'attaquent souvent aux plus modestes. Donc, frères et sœurs, si le train de vie d'un pasteur est excessif et sa moralité est discutable, vous avez là deux indicateurs qu'il peut s'agir d'un faux prophète. Mais il y a beaucoup plus dangereux que cela. Il y a beaucoup plus dangereux que cela. Et souvent, ce ne sont pas des fruits tels que le caractère et le comportement qui permettent de démasquer un faux prophète. Leur comportement peut être irréprochable, mais c'est dans leur enseignement que se trouve la preuve qu'ils sont des faux prophètes. Et je voudrais passer un peu de temps et remonter dans l'histoire et regarder ce qui s'est passé dans l'Église protestante au XIXe siècle. Et j'ai constaté que les chrétiens avec qui j'ai parlé sont rarement informés de ce phénomène historique dont je vais parler. Et pourtant, c'est un phénomène qui, sur le plan historique, a des conséquences fondamentales encore aujourd'hui. Au XIXe siècle, d'abord en Allemagne, c'est sur début, fin XVIIIe, début XIXe, d'abord en Allemagne et puis en Europe et aux États-Unis, s'est répandu sur plus de 100 ans un courant qu'on a appelé, un courant chrétien qu'on a appelé libéralisme ou christianisme libéral. Ça n'a rien à voir avec le libéralisme économique. Et ce courant s'est répandu comme une vague de fond sur les grandes dénominations protestantes, luthériennes, réformées et presbytériennes, au point presque de les engloutir. L'enseignement de ces théologiens, parce qu'il s'agissait de théologiens qui étaient dans des universités, est caractérisé par les éléments suivants. Le point fondamental, c'est que la Bible n'est pas inspirée de Dieu, elle contient des erreurs, c'est un ouvrage d'homme. Ça, c'est la base de leur enseignement. Et effectivement, c'est aussi la base de la démarche de Satan, attaquer la parole de Dieu. C'est la première chose qu'il fait dans le jardin d'Éden lorsqu'il dit « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Ensuite, il nie tout. Christ n'est pas né de façon virginale. Ce n'est pas un miracle de Dieu qui a donné naissance à Christ. Christ n'est pas ressuscité en chair. Ce n'est qu'une résurrection spirituelle. Les miracles n'ont pas existé. L'enfer n'existe pas. Il n'y a pas de péché originel. La mort de Christ n'était pas un sacrifice pour les péchés. Christ n'est pas le seul chemin qui mène au Père, mais, contrairement à ce que nous avons vu depuis deux dimanches, mais toutes les religions mènent à Dieu. L'évangile n'est pas à comprendre au sens spirituel, mais au sens social. C'est-à-dire que le salut consiste non pas à améliorer la condition spirituelle des personnes, mais à améliorer leur condition matérielle. Et l'insistance est mise sur le fait que Dieu est un Dieu d'amour, mais pas un Dieu de justice. Un théologien a très bien résumé cet enseignement par la phrase que je vais vous dire, enseignement qui a un impact énorme encore aujourd'hui sur toutes les églises. Voilà ce que ce théologien a dit pour décrire l'enseignement du christianisme libéral. Un Dieu sans colère a amené un homme sans péché dans un royaume sans jugement, par l'œuvre d'un Christ sans croix. Pas de colère, pas de péché, pas de jugement et pas de croix. Et ça, c'est l'enseignement du christianisme libéral. Il faut que vous soyez conscient que cet enseignement a profondément touché presque toutes les églises luthériennes et réformées en Europe et aux États-Unis. J'étais il n'y a pas très longtemps pour mon travail en Écosse, dans une petite ville où nous avons une filiale, une petite ville de quelques milliers d'habitants. L'Écosse a été un très haut lieu du christianisme à l'époque de la Réforme et au XVIe-XVIIe siècle. Il y avait deux églises dans cette petite ville. Une des deux était devenue un théâtre. Une église qui était devenue un théâtre. Donc, ces églises existent toujours. Elles portent des noms prestigieux, église réformée, église luthérienne, église presbytérienne. Mais elles n'ont gardé que le nom, les traditions, l'histoire, mais elles ont renié la saine doctrine. Il n'y a plus de vie en elles. C'est comme des coquillages qu'on voit sur les plages. Ils sont la preuve qu'il y a une vie, mais la vie est partie. Il ne reste que la coquille, témoin d'un lointain passé. Ça ne veut pas dire que ça et là, il n'y a pas un réveil. J'ai rencontré il y a quelques années à La Rode un monsieur qui appartenait à une église réformée dans la région de Paris, et qui amenait sa fille au camp, et en fait, son pasteur s'était mis à prêcher l'évangile. C'est magnifique. Mais ça semble être une exception. Et un fruit significatif devrait alerter les chrétiens français sur la dérive théologique de ce qui, chez nous, est l'Église protestante unie de France, qui est l'union de l'Église réformée et de l'Église luthérienne. C'est la première, peut-être d'ailleurs la seule, à avoir reconnu et administré une bénédiction pour les mariages homosexuels. C'est un signe qui ne devrait pas tromper. Quand on va aussi loin contre un enseignement évident de la parole de Dieu, il y a vraiment un très grave problème. Et suite à ce phénomène du christianisme libéral, le mouvement auquel nous appartenons, le mouvement évangélique, est apparu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, surtout aux États-Unis et en Angleterre, en réaction, Dieu merci, contre le christianisme libéral qui était si puissant. Et le mouvement évangélique a réaffirmé les grandes doctrines bibliques auxquelles tenaient, auxquelles croyaient les réformateurs qui ont fondé ces églises luthériennes et églises réformées ou églises presbytériennes, notamment l'inspiration et l'inhérence de la Bible, la divinité de Christ, le péché originel, le jugement de Dieu, l'enfer, la nécessité de la mort substitutive, expiatoire et propitiatoire de Christ. Ça, ce sont des choses qui ont été réaffirmées par le mouvement évangélique. Et aux États-Unis, en Angleterre, beaucoup de dénominations, comme les presbytériens, par exemple, se sont coupés en deux. Il y a eu une crise dans leur histoire, et il y a une branche, partie des personnes qui ont créé une branche libérale, puis une autre partie des personnes qui ont créé une branche évangélique. Et d'ailleurs, quand vous allez aux États-Unis, c'est difficile, quand vous voyez presbytérien, de savoir si vous tombez dans une église évangélique ou dans une église complètement apostate. Et ce qui est intéressant, c'est que l'église évangélique est restée dynamique, et ces églises libérales voient leurs effectifs fondre comme neige au soleil. Parce que s'il n'y a pas de péché, s'il n'y a pas de colère de Dieu, s'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas besoin de sauveur. Or, nous venons ici le dimanche pour invoquer notre sauveur et pour le louer, pour ce qu'il a fait pour nous. Et donc, ce n'est pas une surprise que ces églises se vident complètement. Je vous disais que cette église en Écosse qui avait été transformée en un théâtre, est-ce qu'on transformerait une église en un théâtre? Franchement. Mais c'est le cas dans d'autres pays, par exemple la Norvège, qui est un pays luthérien, même luthérien au niveau de l'État. Tous les enfants sont baptisés. Je crois que là-bas, tout le monde doit être inscrit dans une église. Donc, il y a un très grand nombre de personnes qui sont officiellement inscrites dans l'église luthérienne, 5% seulement vont régulièrement à l'église. Et ce phénomène de libéralisme, on appelait ça aussi le modernisme, il n'a pas seulement touché l'église protestante, mais aussi l'église catholique, dans une très grande proportion, si bien qu'aujourd'hui, en réalité, la différence la plus grande qui est entre le mouvement évangélique et l'église catholique ne porte pas trop sur la question de savoir si on est sauvé par la foi ou par les œuvres, mais plutôt sur la question de savoir si on doit réellement être sauvé. J'ai été élevé dans une église catholique où le climat général, l'atmosphère, même si les choses n'étaient pas dites, était celle de l'universalisme. Tout le monde est sauvé. On ne parlait jamais du salut, ni de l'enfer, ni de la nécessité du repentir. Et donc je disais que ce christianisme libéral a été répandu à partir d'universités de théologie par des gens respectables, très bien élevés. Ce n'étaient pas des télévangélistes qui volaient en jet. Mais il a porté un coup terrible au christianisme. Les conséquences en sont encore visibles aujourd'hui. Alors, évidemment, comme toute vérité ou tout mensonge, les gens l'adoptent plus ou moins en totalité. Mais ces messages-là sur la négation de l'inspiration de la parole, la négation du jugement, la négation des miracles, ils peuvent être retrouvés à différents endroits, dans différents enseignements. Et ça vient de là. J'ai dit que c'était des théologiens qui avaient émis ces théories. La théologie en soi n'est pas une mauvaise chose. La théologie est une très bonne chose. Ça veut dire que la théologie, c'est l'étude de Dieu. Mais ces gens-là ont développé et enseigné une fausse théologie, des mensonges sur Dieu. Maintenant, qu'en est-il de notre mouvement évangélique? Est-ce que nous sommes à l'abri des faux prophètes? Et je crains que non. Le frère Jean-Pierre en a parlé, j'ai parlé de l'évangile de la prospérité. Il y a bien d'autres dangers. En fait, la parole nous enseigne que dès qu'il y a une église, dès qu'il y a l'église, il y a des faux prophètes. Jésus l'a enseigné en Matthieu 13. Il a comparé le monde à un champ dans lequel Jésus sème la bonne parole, sème la bonne nouvelle. Mais immédiatement après, il y a un autre homme qui vient, un autre personnage qui vient, qui sème l'ivraie. Le problème, c'est que le blé et l'ivraie se ressemblent beaucoup quand ils sont jeunes, ils sont très difficiles à différencier. Si bien que l'Église contient en elle-même des personnes qui marchent sur la voie étroite et des personnes qui marchent sur le chemin spacieux. Nous devons donc être vigilants en permanence quant aux erreurs et aux faux enseignements et les dénoncer. Non pas par esprit de dispute, mais afin de protéger les brebis. Et donc, ne nous y trompons pas. Là où il y a du bon grain, il y a de l'ivraie, c'est Jésus qui le dit. Alors quels sont les faux prophètes qui menaceraient l'Église évangélique aujourd'hui? Il y en a certainement beaucoup et de différentes sortes, mais je voudrais parler d'un phénomène particulier Il ne s'agit pas de télévangélistes qui prêchent l'évangile de la prospérité et qui volent en jet privé. Il ne s'agit pas non plus, et on en a parlé, de soi-disant apôtres qui s'attribuent des pouvoirs de guérison et prétendent avoir reçu des révélations de Dieu. Je ne parle pas non plus de théologiens libéraux qui nient en bloc toutes les grandes doctrines fondatrices du christianisme. L'erreur vient de nos milieux évangéliques, dans nos milieux évangéliques de la part d'hommes parfaitement orthodoxes sur le plan des grandes doctrines du christianisme telles que la Trinité, la personne de Christ, la mort expiatoire, etc. Mais ces hommes prêchent ce qu'on appelle la grâce à bon marché. C'est un terme qu'on retrouve souvent. John MacArthur a décrit, donc vous connaissez, beaucoup d'entre vous connaissent John MacArthur, qui est un grand pasteur donc évangélique aux États-Unis. Il a décrit et dénoncé ce phénomène dans un livre intitulé « L'évangile selon Jésus ». Mais il est loin d'être le seul à en parler. Je voudrais citer un extrait de son livre, qui parle donc de cette grâce à bon marché. Un segment du mouvement évangélique va jusqu'à avancer la doctrine selon laquelle la conversion à Christ ne fait appel à aucun engagement spirituel, quel qu'il soit. Ceux qui ont une telle vue de l'évangile enseignent que les Écritures promettent le salut à quiconque croit simplement les faits concernant Christ et demande la vie éternelle. Selon eux, ni la renonciation au péché, ni un changement consécutif du style de vie, ni un engagement, ni même le désir de se soumettre à l'autorité de Christ sont nécessaires. Ils affirment que ces éléments sont en fait des œuvres humaines qui corrompent la grâce et n'ont rien à voir avec la foi. Dans un autre passage, il dit ceci : l'évangile à la mode de nos jours présente un faux espoir aux pécheurs. Il leur affirme qu'il est possible d'avoir la vie éternelle tout en continuant à vivre en rébellion envers Dieu. Il encourage même à confesser Jésus en tant que sauveur, tout en reportant à plus tard l'engagement à lui obéir en tant que Seigneur. Il promet le salut de l'enfer, mais pas la libération de l'iniquité. En fait, vous entendrez souvent l'expression « chrétien charnel ». Ils ont inventé une autre catégorie de chrétiens. Il y a les incroyants, il y a les chrétiens spirituels, et puis au milieu, il y aurait quelque chose qui s'appelle les chrétiens charnels. C'est-à-dire des gens qui ont fait une profession de foi, donc qui sont sauvés, mais qui ne sont pas des disciples. Mais ça n'est pas biblique. La Bible est binaire. On est chrétien ou on n'est pas chrétien. Et un chrétien est nécessairement un disciple. Alors ils partent d'une bonne intention. Ce sont des gens qui sont eux-mêmes souvent des gens extrêmement irréprochables sur le plan de leur conduite. Ils partent d'une bonne intention qui consiste à fonder le salut entièrement sur la grâce de Dieu et pas sur les œuvres. Mais ils ont nié toute place aux œuvres dans le salut et à tout ce qui pourrait y ressembler. Si bien qu'ils dissocient totalement la grâce de tout ce qui pourrait ressembler à une œuvre. Par exemple, selon eux, le repentir et la soumission à Christ sont du domaine des œuvres et donc pas nécessaires au salut. Ils ne disent pas que c'est pas bien. Ils disent que c'est pas nécessaire au salut. Ils mettent le repentir et la soumission à Christ comme des choses qui ne sont pas nécessaires au salut. C'est un enseignement qui a vu le jour aux États-Unis dans les années 20, mais comme toutes ces choses-là, ça met beaucoup de temps à se développer. Et c'est encore florissant aujourd'hui, et c'est venu aussi chez nous, et ça influence fortement le mouvement évangélique et même nos façons de penser à chacun d'entre nous, parce qu'on a tous été plus ou moins marqués par ça. Alors une très bonne façon de mentir, c'est d'insister à l'excès sur un seul aspect de la vérité, en masquant un autre. Par exemple, on a parlé des chrétiens libéraux qui insistent sur l'amour de Dieu, mais qui ne parlent pas ni de la justice ni de la colère. Ici, l'enseignement dont je parle, c'est grâce à bon marché, elle insiste sur la justification par la foi, et qui peut s'opposer à ça? La justification par la foi, c'est une des plus belles doctrines de la foi chrétienne. Et c'était le cœur de la réforme dont on fête le 500e anniversaire. Mais on ne peut pas séparer la foi, une véritable foi qui sauve, du repentir. On ne peut pas séparer la foi du repentir. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Le repentir, c'est la prise de conscience par un homme brisé par son péché que la voie sur laquelle il marche l'amène à la destruction. Et la foi en Christ, c'est la confiance de cet homme. Enfin, c'est la confiance que cet homme met en Christ comme étant son seul espoir pour être sauvé de la colère à venir. Ainsi, le repentir consiste à tourner le dos au péché et la foi à se tourner vers Christ. Ça se fait en un même mouvement. Se repentir, et la foi, c'est la même chose. On quitte le péché, on va vers Christ. Quitter le péché, c'est se repentir. Aller vers Christ, c'est la foi. On ne peut pas séparer la foi du repentir. On ne peut pas dissocier non plus la foi de la nouvelle naissance, ou de ce qu'on appelle aussi la régénération. Cette nouvelle naissance qui est opérée par Dieu de façon souveraine dans le cœur d'un homme. La régénération, elle transforme en profondeur tout le cœur et toute la vie d'un homme. Un des premiers fruits de la régénération, c'est la foi. Mais les fruits qui s'en suivent, évidemment, sont des œuvres. Éphésiens 2:10 nous dit « Nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » On ne peut pas dissocier non plus la justification de la sanctification. La sanctification. La sanctification, ça consiste à mettre le chrétien à part pour le service de Dieu. La sanctification, c'est en fait un mot qui veut dire mettre à part. Quand on sanctifiait les prêtres, qu'on sanctifiait même les ustensiles dans l'Ancien Testament, il s'agissait de les mettre à part pour le service de Dieu. Nous sommes, au moment où nous sommes sauvés, nous sommes justifiés, c'est-à-dire la justice de Christ que nous n'avons pas nous est imputée, et nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire que nous sommes mis à part pour le service de Dieu. Ce n'est pas des choses qui sont séparées. Et l'autre chose qui concerne la sanctification, c'est que cette mise à part, elle se manifeste par la croissance progressive, mais certaine, du chrétien, dans l'obéissance à Dieu, dans tous les domaines de sa vie, par l'action du Saint-Esprit. Évidemment, ça produit des œuvres. Et c'est ce pourquoi nous avons été sauvés. Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Titre 2:14. La justification, c'est la porte étroite. Et la sanctification, c'est le chemin resserré. Et si la porte est étroite, c'est que pour entrer comme chrétien dans le voyage du pèlerin, on a un gros bagage de péché sur le dos. On ne passe pas par la porte étroite avec le gros bagage de péché, il faut qu'il tombe. Et le chemin est resserré. Il est resserré, c'est un chemin qui est difficile. Il n'est souvent pas confortable. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, que ce soit par des persécutions de l'extérieur ou des combats intérieurs. La parole nous dit que le chemin qui mène à Jésus nécessite tous nos efforts, en 2 Pierre 1:5. Il nécessite, Hébreux 12:4, de résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est un chemin de combat spirituel et parfois de persécution des hommes. Ainsi Pierre dit en 1 Pierre 4:12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Si vous êtes des chrétiens qui souffrez aujourd'hui, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Il y a des attaques de Satan qui sont certaines. Il y a aussi notre chair qui est toujours en nous, contre laquelle il faut lutter, et qui cherche toujours à nous ramener vers le vieil homme. Donc le chemin n'est pas facile. Mais l'enseignement de la grâce à bon marché, lui, il invite les hommes à passer par la large porte. Pour entrer, il suffit de croire les faits sur Jésus et de faire une prière. J'ai parlé récemment avec un jeune homme au travail et j'avais un peu partagé l'évangile avec lui. Et puis il me dit, tu sais, en fait, je suis athée. Et je lui dis, tu sais, la question, c'est pas de savoir si tu crois que Dieu existe ou pas. Dieu existe. La question, c'est de savoir si c'était prêt à te soumettre à lui. Donc, dire aux gens qu'ils sont sauvés en acceptant les faits sur Jésus-Christ, c'est pas très compliqué. Ils leur disent, vous croyez les faits sur Jésus, vous faites une prière, pas besoin de tourner le dos au péché. Ça, c'est la large porte. Tout le monde peut le faire, ça. Cet enseignement invite les hommes à marcher sur le chemin spacieux. Le changement de vie n'est pas nécessaire. Il ne fait pas partie du salut en tant que tel. Et on peut tout à fait être sauvé tout en continuant à vivre dans son péché. Alors, je voudrais que vous regardiez vos Bibles dans Jérémie 23. On va regarder à partir du verset 16. Ça nous parle des faux prophètes et c'est très édifiant. Jérémie 23, Verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Verset 17. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Ces faux prophètes enseignent une fausse paix. Il y a un autre passage dans Jérémie, au chapitre 6, très connu, où Jérémie dit, il pense, et c'est Dieu même qui parle, il pense, il guérisse, il pense à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, il n'y a point de paix. Ils disent à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Ils disent aux gens, vous suivez les penchants de votre cœur, vous menez une vie qui n'est pas transformée, mais il ne vous arrivera aucun mal. C'est exactement l'enseignement de la grâce à bon marché. Vous avez prié une prière, vous êtes sauvé, vous êtes un chrétien charnel, c'est pas grave, vous pouvez continuer à marcher sur le chemin qui mène à la perdition, vous pouvez continuer à suivre les penchants de votre cœur et à pécher. Mais Dieu n'a pas envoyé ses prophètes. Dans Jérémie, nous le voyons au verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendue? Et verset 21, je n'ai point envoyé ces prophètes. Et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Le rôle du vrai prophète, c'est de faire entendre les paroles de Dieu à son peuple et de les faire revenir de leur mauvaise voie, comme l'a fait Jean-Baptiste et comme l'a fait Jésus, appelé au repentir. Les premières paroles de Jésus, c'est « Repentez, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On voit souvent, en tout cas moi quand je suis devenu chrétien, c'est ce que j'avais compris, j'entendais vraiment que on priait une prière et puis on était sauvé, quoi. Et il y avait même des pasteurs qui disaient aux gens qui avaient des doutes sur l'assurance du salut, qui leur disaient, mais est-ce que vous avez prié une prière? Mais l'assurance du salut, c'est pas savoir si j'ai prié une prière un jour. Je peux la reprier aujourd'hui, la prière. L'assurance du salut, ce qui me l'apporte, et c'est ce que montre 2 Pierre, c'est ma vie. C'est le chemin sur lequel je marche. Si on a des doutes sur l'assurance du salut, il ne faut pas se demander est-ce que j'ai prié une prière quand j'avais 6 ans, ou 8 ans, ou 12 ans, ou 25 ans. C'est est-ce que je marche aujourd'hui sur le chemin qui mène à la vie éternelle? Est-ce que j'ai la foi aujourd'hui dans mon cœur? Frères et sœurs, donc quand un enseignant, concernant donc la croyance, quand un enseignant vous dit que la porte est large et que le chemin est spacieux, une alarme doit s'allumer dans votre esprit. Vous allez entendre sur le fait que c'est sans doute un faux prophète. Maintenant, on va terminer en regardant les versets 17 à 20. Et je vais les relire pour vous. Tout arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On va regarder un peu le principe qui est énoncé dans ces versets. Donc on a vu que c'est d'abord une méthode qui est donnée par Jésus pour déceler les faux prophètes. Si on n'est pas un horticulteur expérimenté, il suffit de regarder les fruits pour comprendre, tout de suite voir ce à quoi on a affaire en termes d'arbres. Mais dans ces versets 17 et 18, il y a un enseignement très important et une puissante illustration justement sur ce qu'est le salut. Le salut ne consiste pas à accrocher des grappes de raisin sur des ronces ou des cerises sur des chardons. C'est-à-dire qu'en fait, le salut ne consiste pas à ce qu'une personne foncièrement mauvaise s'efforce de produire des fruits qui ne sont pas naturellement les siens. Cela reviendra à accrocher des grappes sur des raisins, des grappes de raisins sur des ronces. Peut-être qu'elles pourront faire illusion quelques jours, mais elles vont finir par pourrir et puis par dessécher. Le salut, ça consiste à prendre une personne qui est foncièrement mauvaise et à en faire une personne foncièrement bonne. Et à prendre un mauvais arbre et en faire un bon arbre. Et seul Dieu peut faire ça. Seul Dieu peut faire ça. Et on a dans cette petite parabole, sur l'arbre et les fruits, on a une image de la nouvelle naissance, de la régénération, de Dieu qui prend un cœur de pierre et qui en fait un cœur de chair. Je voudrais citer un verset qui donne un parfait parallèle à cette image de l'arbre. Ça se trouve dans 1 Jean 3,9. 1 Jean 3,9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous voyez le parfait parallèle ? Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est vraiment l'image, l'arbre. Et la doctrine, c'est celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alors si vous n'êtes pas chrétien et que vous vous demandez comment le devenir, ne croyez pas que c'est en décidant de réformer votre attitude ou en choisissant de tourner la page. Ce n'est pas une bonne résolution de nouvel an. À partir de demain, je ne mens plus, je ne dis plus de gros mots, et je vais à l'église tous les dimanches. Même si, effectivement, ces choses sont importantes. Devenir chrétien, ce n'est pas accrocher des grappes de raisins sur des ronces. Mais il faut d'abord que la ronce soit transformée en vigne. Et alors, la vigne portera des fruits en abondance et des fruits authentiques. Jésus dit ceci en Jean, chapitre 3, il dit « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Comment faire ? Il y a une seule réponse. On ne peut pas se faire naître soi-même. La seule réponse, c'est aller à Christ. Lui seul peut nous donner la nouvelle naissance. Il peut vous donner la nouvelle naissance. Il faut aller à Christ dans son cœur. Il ne se trouve pas dans un endroit physique. Il se trouve, on communique avec Christ par son cœur, on accède à lui par le cœur. C'est le centre de la vie spirituelle. C'est là où il y a vraiment la personne que nous sommes profondément. Nous devons ressentir notre besoin de Christ dans notre cœur. Sentez votre misère, dit la parole. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croire, obéir, dit un cantique. Il n'y a pas d'autre moyen. Et Christ invite les hommes à venir à lui. Il dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez du repos pour vos âmes. » Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et je termine ainsi, notre passage conclut donc au verset 19 sur une note austère. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jésus nous parle ici de la terrible destinée des faux prophètes. Mais il nous donne aussi une autre image de cette perdition qui attend ceux qui sont sur le chemin spacieux. Il introduit ici un enseignement qui va développer dans les versets suivants et qu'on verra une autre fois. Mais simplement, Jésus nous rappelle qu'il y aura un jugement. Et que ce jugement il sera sur la base des fruits que nous avons portés. Et que ces fruits seront le surtémoin des arbres que nous sommes. Alors puissons-nous méditer avec sérieux et gravité cette question. Quels sont mes fruits ? Quels sont mes fruits ? Quels sont, chacun d'entre nous, quels sont nos fruits ? Est-ce que ce sont les fruits d'un bon arbre ? Ou est-ce que ce sont les fruits d'un arbre qui mérite d'être coupé et jeté au feu ? Puisse le Seigneur nous éclairer. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Puis-tu, Seigneur, maintenant, dans les moments qui vont venir et plus tard aussi, nous éclairer, Seigneur, dans notre cœur et nous montrer nos fruits. Afin, Seigneur, que nous puissions venir à toi, Seigneur. Aller à Christ, car tu nous appelles à venir à toi et tu nous promets, Seigneur, la justification. Et tu nous promets, Seigneur, de nous laver de nos péchés. Montre-nous, Seigneur, notre besoin. Montre-nous par nos fruits qui nous sommes réellement. Et non pas, Seigneur, pour nous décourager, pour décourager tout un chacun ici, mais pour aller à toi et répondre à ton appel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, Seigneur, si les fruits que nous voyons nous remplissent d'inquiétude et nous rendent fatigués et chargés, alors, Seigneur, nous voulons aller à toi. Je te prie, Seigneur, au sein de ton Fils. Amen.